Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Envoyez votre Esprit, Seigneur, à se faire une création nouvelle.
Vous renouvellerez la face de la terre.
Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Jésus, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je vous parle un petit peu des empêchements aujourd'hui, donc je vous donne la liste des empêchements d'après le code de l'ordre canonique traditionnel. Donc, voilà, je vais vous expliquer. Je demande des sous. 1, 2, 3,
je suis pas riche.
Empêchement. Donc, alors. Donc, ce que vous avez sous le nez est une liste qu'on appelle les OPEX. Qu'est-ce que c'est qu'un OPEX ? Un OPEX, c'est un empêchement qui empêche la célébration d'un mariage. Alors, il faut savoir d'abord qu'il y a deux sortes d'empêchements. Empêchement prohibant, empêchement dirimant. Prohibere en latin, ça veut dire interdire. Un empêchement prohibant, c'est un empêchement qui interdit le mariage, mais... Si le mariage est fait sans dispense, ce mariage est quand même valide. Bon. Cependant, il y a faute de la part des contractants de se marier dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est en général des choses qui ne sont pas forcément très graves, et donc si la dispense n'est pas accordée, eh bien le mariage est quand même valide, et en général, les dispenses sont relativement faciles à obtenir. Par contre, l'empêchement d'irrément, c'est une paire de manches. L'empêchement d'irrément, c'est un empêchement qui rend... invalide le mariage. Ça veut dire que si les personnes se marient avec un empêchement de ce genre, qu'on appelle empêchement dirimant, sans qu'il y ait dispense valide accordée, le mariage est tout simplement invalide. Bon. Alors, il faut un petit peu comprendre ces choses, parce qu'il y a beaucoup de confusion en général chez nos fidèles sur les histoires d'empêchement. Donc il faut savoir exactement ce que ça signifie des termes. Entre autres, par exemple... beaucoup de gens pensent que un mariage qui ne peut pas donner d'enfants parce que les personnes sont stériles pour une raison médicale quelconque, ils pensent que c'est un mariage invalide. Ce qui n'est pas le cas, ça n'existe pas comme empêchement. Je vais bien expliquer les choses. On va d'abord voir les empêchements prohibants et ensuite les empêchements dirimants. Je ne vais pas vous donner tous les détails canoniques qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Mais disons qu'en principe, surtout quand on ne connaît pas les gens, le prêtre doit vérifier l'absence d'empêchement. Bon, dans la pratique, quand on connaît les gens, il n'y a aucun problème. Donc, il y a trois sortes d'empêchements prohibants. Ces empêchements qui, s'ils existent, il faut obtenir une dispense des autorités compétentes religieuses. Et si la dispense n'est pas accordée, le mariage reste néanmoins invalide. Alors, je dis tout de suite qu'actuellement, il y a un problème énorme qui se pose, c'est à qui demander les dispenses ? Vu la charonne pagaille qui règne. Alors ça pose un énorme problème. Alors, on verra ça après. Alors, empêchement prohibant, il y en a un qui est important, c'est le deuxième. Les autres sont relativement rares. Le premier, c'est l'empêchement de vœux saints. Pour ça, dans les enquêtes, je pose toujours la question, est-ce que vous n'avez pas, quand vous étiez petit, plus jeune, fait une promesse de jamais vous marier, un vœu de chasteté, un vœu de rentrer dans un couvent, un vœu de sa bonne sœur, un vœu de devenir prêtre, etc. Donc pourquoi ? Parce qu'un vœu, ce qu'on appelle un vœu simple, un vœu de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, un vœu de rentrer dans l'état religieux, rendre le mariage illicite. Donc il faut obtenir une dispense. En fait, un peu attention avec les vœux, ça c'est des choses qui sont peu connues sur le plan canonique. C'est que souvent les gens viennent nous voir, disent « Monsieur l'abbé, j'ai fait un vœu imprudent, si vous pouvez me relever s'il vous plaît. » Le prêtre n'a pas le pouvoir de relever les vœux, attention. Le prêtre n'a pas le pouvoir de relever les vœux, ce sont des pouvoirs qui sont accordés à certaines personnes. En principe, on a le pouvoir de relever les vœux les évêques, et les moines, qu'on appelle les moines qui ont le privilège des mendiants. Le privilège des mendiants, c'est des moines qui mendient pour vivre. Par exemple, les Capucins, les Franciscains, les Dominicains, etc. Bon. Alors c'est pour ça que c'est assez compliqué. Faire attention, ne jamais faire un vœu sans prendre conseil avant, pas faire des vœux imprudents. Parfois, les gens font des vœux très imprudents, et il faut arriver à les enlever avant. Ça arrive régulièrement. Le fils qui me dit, monsieur l'abbé, ben, quand j'avais 10 ans, j'ai promis au bon Dieu que j'allais devenir bonne sœur. Voilà, donc j'ai fait le vœu de devenir bonne sœur. Mais attention, vous êtes lié par un vœu. Bon, c'est évident que le mariage est contraire de ce vœu, donc il faut d'abord s'en faire relever. C'est pas toujours très facile de se faire relever de ses vœux, parce qu'encore une fois, même pour un vœu simple comme ça, le prêtre n'a pas le pouvoir. Bon. Alors, deuxième chose, c'est la religion mixte. Voilà, c'est beaucoup plus fréquent. Et être plus sérieux. Alors, il y a deux vœux qui sont pas identiques, mais qui sont parallèles. Le vœu de religion mixte et le vœu de disparité de culte. Alors, qu'est-ce que c'est que ces empêchements? C'est l'empêchement qui existe quand un catholique se marie avec un non-catholique. D'accord? Un catholique baptisé qui se marie avec un non-catholique. Il y a deux cas qui peuvent se présenter. Ou le non-catholique a une religion avec un baptême valide, ou le non-catholique n'a pas de baptême valide. Donc, s'il n'y a pas de baptême valide, c'est le cas d'un mariage entre un catholique et un païen. Ou alors, ça peut être un cas d'un mariage catholique avec un hérétique ou un schismatique, mais qui a un baptême valide. Dans la pratique, c'est assez rare. Il y a entre autres le cas des hétérodoxes, des orthodoxes. Les orthodoxes ont un baptême valide. Donc, si un catholique se marie avec un orthodoxe, avec une orthodoxe, il y a un cas d'empêchement qu'on appelle l'empêchement de religion mixte. C'est-à-dire qu'il faut obtenir une dispense pour pouvoir faire ce mariage. D'accord ? Par contre, si le mariage a lieu entre un catholique et une personne qui n'est pas baptisée du tout, ce qu'on appelle l'empêchement d'irriment. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire que si vous n'obtenez pas la dispense, le mariage est purement et simplement invalide. Alors, il faut bien comprendre que l'Église catholique a toujours détesté ce genre de mariage. Au sens fort du terme, c'est-à-dire que l'Église est très opposée au mariage entre un catholique et un non-catholique. Selon la pratique, quand un des parents seulement est catholique et l'autre n'a pas la foi catholique, la plupart du temps, ça entraîne que les enfants vont tous devenir des païens, ils perdent la foi. Alors, lorsque l'Église se rend compte que ces personnes sont vraiment décidées de toute façon à se marier, bien qu'elle n'ait pas la même foi, l'Église va commencer d'abord par fortement déconseiller. Et si les gens ne suivent pas ce conseil, tiennent absolument à se marier, dans certains cas, l'Église peut concéder certaines dispenses pour que les gens puissent se marier à ces conditions. Ces dispenses sont toujours des dispenses conditionnelles. Il y a des conditions très serrées. Bon, ça vous donne un peu une idée de ce qu'était le véritable écuménisme des temps anciens, hein, au temps où, avant Pie XII, jusqu'à Pie XII. Donc, première condition, il faut que la personne non catholique promette de ne jamais empêcher son conjoint catholique de pratiquer sa religion. D'accord ? Première condition. Deuxième condition, la partie non catholique promet que tous les enfants à naître seront baptisés et éduqués dans la foi catholique. C'est ce qui est très important. Troisième condition, le mariage ne se fait jamais en public, mais en privé dans la sacristie. Avant, c'était comme ça. Donc, le mariage se faisait ce qu'on appelle in nigri, c'est-à-dire que le prêtre ne mettait aucun ornement, pour bien montrer que l'Église n'est pas d'accord. Mais c'était simplement une étole, c'est tout. Une étole, on faisait un mariage presque à la sauvette à la sacristie avec deux témoins, point final. Et l'Église s'est toujours très fortement opposée à ce genre de mariage parce que ça donne en général des catastrophes. Il est évident que si la partie non catholique refuse les conditions, il n'y a pas de mariage. Le prêtre refuse de les marier, tout simplement. Alors, c'est quand même des conditions importantes parce que souvent la partie catholique me dit ah, mais moi, la partie non catholique va dire moi, je veux que mes enfants aient le choix. C'est-à-dire qu'on leur laisse libre, on ne les baptise pas, puis quand ils arrivent à ces 17 ans, ils choisissent par eux-mêmes. Dans ce cas-là, c'est pareil, pas de mariage. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Les gens, quand il y a des cas comme ça, sont furieux aussi de voir qu'ils ne peuvent pas faire un mariage public avec le décorum extérieur d'un mariage. C'est pour bien montrer que l'Église n'aime pas ce genre de mariage. Alors, dans ce cas-là, il faut donc ces papiers, et les papiers doivent être signés devant témoins avant le mariage. quand la dispense est accordée. Bon, c'est quoi, c'est en général par l'évêque. En général, pour les empêchements prohibants, la dispense était accordée, si mes souvenirs sont exacts, par l'évêque. Pour les dispenses dans cet empêchement d'irriment, parfois il fallait monter beaucoup plus haut jusqu'à Rome. Bon. Alors, l'évêque donc a accordé la dispense, et quand la dispense était accordée, on pouvait faire le mariage, mais encore une fois, mariage fait à la sacristie, sans aucun décorum extérieur, avec la promesse signée par la partie non catholique que tous les enfants à naître seront éduqués dans la foi catholique et que la partie non catholique ne cherchera jamais à convertir à sa religion la partie catholique. Alors, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle un empêchement de prohibant. Est-il de vous dire que depuis Vatican II, ça n'existe plus. Hein. Troisièmement, la parenté légale. Alors, dans un cas comme ça, qu'est-ce que c'est que la parenté légale? C'est le cas des enfants qui ont été adoptés. Donc l'Église suit la constitution laïque. Pour qu'il n'y ait pas d'opposition, c'est pas la peine de s'opposer aux États quand il n'y a pas de raison. En principe, je ne sais pas exactement quelle est la loi en France, en principe, quand vous adoptez légalement un enfant, cet enfant n'a pas le droit légalement de se marier civilement avec les gens avec lesquels il est éduqué. Donc, c'est faux frères et sœurs. C'est beaux frères, comment on appelle ça, des beaux frères, oui. C'est pas vraiment un beau frère, comment il y a un nom pour ça. Demi-frère, demi-sœur. Le mariage est interdit. Donc, si le mariage est interdit de façon dirimante par l'État, le mariage sera aussi interdit de façon dirimante par l'Église. Si le mariage est permis de façon prohibante, est interdit seulement de façon prohibante par l'État, l'Église suit la même règle. En général, dans la plupart des pays, l'État interdit ce genre de mariage de façon dirimante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispense donnée et que si le mariage se fait sans la dispense, le mariage est invalide même légalement. Pour des raisons toutes simples. C'est que dans la pratique, une personne adoptée, un enfant adopté, est considéré par la famille adoptante, la famille adoptive, comme un fils de la famille. Donc c'est proche de l'inceste quand il y a un mariage entre un demi-frère et par exemple une sœur. Une sœur véritable. Donc l'Église, justement, par prudence, suit la loi civile dans ce domaine. Alors, ensuite, il y a les empêchements d'irriment. Les empêchements d'irriment sont des empêchements très importants. Donc, encore une fois, si les personnes se marient sans la dispense nécessaire, le mariage est tout bonnement invalide. Alors, il y a des empêchements pour lesquels l'Église ne donne jamais de dispense. Jamais. Par exemple, l'empêchement de lien. Le troisième, c'est l'empêchement de lien. Qu'est-ce que c'est qu'empêchement de lien? C'est quand il y a un mariage préexistant. Quand il y a un mariage préexistant, un mariage valide, bien sûr, préexistant, et bien tout simplement, le mariage est impossible. Puisque les personnes sont déjà mariées. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a jamais de dispense accordée. Enfin, c'était comme ça, sous Pilou. Jamais de dispense accordée. Le prêtre refuse de marier ces personnes. Alors, il y a toujours des petits malins qui essayent de s'en tirer. La plupart des pays, ce que font les gens qui veulent s'en tirer de façon très scabreuse. J'ai vu des tas de cas aux États-Unis où les gens devenaient protestants. Donc la première raison pour laquelle des gens devenaient protestants dans les pays où le protestantisme est très fort, comme les États-Unis, la première raison pour laquelle des catholiques apostasiés devenaient protestants, c'était toujours pour l'histoire de mariage. Parce que les protestants se fichent complètement, ils ne croient pas à l'incivilité du mariage chrétien, donc ils s'en fichent complètement. Et donc des catholiques, un catholique voulait se marier avec une personne protestante, ou une personne païenne, qui n'était pas baptisé, donc empêchement dirimant de disparité de culte. Donc les personnes venaient voir le curé, donc voilà, on va se marier, mais ma future n'est pas catholique, n'est pas baptisée. Bon. 9 fois sur 10, l'Église disait non, pas question, parce que nous sommes contre ce genre d'union, ça va entraîner l'apostasie de tous les enfants, il n'est pas question qu'on accepte ça. Alors ce qu'ils faisaient, ils allaient au protestantisme, se faisaient baptiser protestant, ce qui est une simple formalité pour la plupart des protestants, se faisait baptiser protestant, se faisait marier chez les protestants, et puis après, hop, il a débarqué chez nous, avec un nouveau mari, une nouvelle épouse. Mais avec un culot, c'est moins ressemblable, donc il fallait qu'on fasse attention à ces choses-là. Hein, donc, il faut bien mettre ça dans la tête des parents, et surtout dans la tête des enfants, que le mariage est indissoluble. Un mariage valide est indissoluble, point. Beaucoup de gens pensent, à cause du lavage de cerveau moderne, que dans certains cas, l'Église peut tolérer, pourrait tolérer un mariage qui soit annulé. Un mariage valide ne peut pas être annulé, c'est aussi simple que ça. L'annulation de mariage, donc, n'existe pas. Et quand un mariage est, entre guillemets, annulé, ça ne veut pas dire que le mariage existant était valide puis est devenu invalide, parce que c'est impossible. Ouais, il faut remonter à la date du mariage. Si à la date du mariage, vous étiez validement marié, vous êtes validement marié pour toute l'éternité, pas jusqu'à la mort, pas l'éternité, d'accord ? Donc aucune autorité au monde ne peut invalider ce mariage, parce que vous êtes marié, il y a l'unité et l'indissolubilité qui sont engagées. Donc en tant que la vie, le mariage n'est pas rompu, le mariage n'est rompu que par la mort. Donc aucune autorité au ciel et sur la terre, dit le texte dogmatique, ne peut invalider un tel mariage. Faites très attention, parce que maintenant c'est rentré dans les mœurs, et la plupart des soi-disant catholiques modernes pensent qu'on peut invalider un mariage. Bon. Et les curés modernes, c'est aucun respect humain pour le dire. Moi j'ai eu tas de cas comme ça, des époux qui se disputent, madame va voir son curé, elle va dire voilà, on commence à se disputer tout le temps avec mon époux, qu'est-ce que je dois faire ? Au lieu d'encourager les gens à essayer de sauver ce qui peut être sauvé, de peut-être faire une bonne conversion générale, commencer à voir un petit peu ses propres défauts pour essayer de sauver la situation, les curés modernes, ni une ni deux, vont vous dire tranquillement, mais tout simplement, demandez une annulation de mariage, madame. Ou monsieur, vous allez demander une annulation de mariage, vous annulez votre mariage et vous mariez, c'est tout. Donc l'annulation de mariage, en fait, dans le monde moderne, c'est un substitut pour le divorce catholique. En fait, c'est purement et simplement le divorce catholique. Et donc, à partir du moment où des gens se marient religieusement avec l'idée d'un divorce catholique possible, eh bien, le mariage est invalide. C'est moins valide. Donc, faire très très attention à ça, être sûr que ces mentalités ne passent pas les frontières de nos paroisses. Malheureusement, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Moi, j'ai eu plusieurs cas comme ça, de gens qui sont tranquillement... Donc, qui était marié religieusement dans la foi catholique traditionnelle. Au bout d'un certain temps de mariage, ça peut être 10, 20, 30, 40 ans, il décide de changer d'épouse parce qu'il se dispute tout le temps avec l'épouse légitime ou je ne sais pas quoi. Donc, il change d'état, c'est une apostasie en fait. Il passe à l'église moderne où ils vont demander à l'église moderne le pouvoir de changer l'épouse. L'église moderne qui s'en contrefiche, puisque l'église moderne accepte le divorce. L'église moderne donc, accorde l'invalidation du premier mariage. Dit à ces gens, vous pouvez se remarier religieusement, s'il vous plaît, devant l'église de Vatican II, et après, on débarque chez nous. On est plusieurs cas comme ça. Bon. Alors, ça fait évidemment pas mal de scandale, parce que les gens se connaissent, et puis vous savez, au début, le gars, il s'est marié, là, son épouse est toujours vivante, et puis il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Donc, dès qu'on apprend quelque chose comme ça, on va voir les gens, ben, il n'est pas question de recevoir les sacrements chez nous. Éventuellement, vous assistez à la messe, c'est une chose, vous ne pouvez ni vous confesser, ni communier tant que vous êtes dans cette situation. D'accord ? Alors, encore une fois, il faut faire attention parce que l'influence protestante est considérable. Bon, il y a aussi des tas d'autres religions qui acceptent le divorce. Par exemple, même des religions pourtant considérées comme relativement stables, comme l'orthodoxie. Les orthodoxes acceptent 3 divorces. Vous pouvez vous marier 3 fois, exactement. Donc ça rend tous les mariages orthodoxe et invalide. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je me marie avec l'intention possible, avec une possibilité que je puisse me remarier, ça veut dire que le mariage est invalide. Pourquoi ? Parce qu'il manque une condition sine qua non pour la validité du mariage, à savoir la notion d'indissolubilité. D'accord ? Alors, vous avez compris ?
Les orthodoxes sont pas mariés.
Les mariages orthodoxes, c'est invalide. Parce que le mariage orthodoxe admet 3 mariages. Vous pouvez divorcer 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Donc, si vous pouvez divorcer 3 fois, ça veut dire qu'il n'accepte pas l'indissolubilité. Donc, à partir du moment où je me marie en acceptant le problème, la dissolubilité du mariage, le mariage est invalide. On avait le même problème, un problème de ce genre, très important aussi en Afrique. Au Gabon, par exemple, quand les gens se mariaient civilement, le Gabon, c'était un bazar parce qu'il y a 3 mariages. Il y a un mariage civil, le mariage religieux et le mariage coutumier, c'est celui-là qui était important pour eux. Et donc, pour le mariage civil, donc, ils signaient... Ah, tu as fermé la porte, s'il te plaît. Merci. Donc, pour le mariage civil, ils signaient un papier comme quoi ils voulaient se marier de telle personne, ils remplaçaient les documents d'état civil, et il y avait un carré à cocher. Soit ils choisissaient la monogamie, soit la polygamie. À ce moment-là, ils avaient droit à 4 épouses. Et tous signaient la deuxième case au cas où. Bon. Et donc, même quand ils s'aimaient d'amour tendre, comme on dit, s'ils ne signaient pas la première case et qu'ils signaient la deuxième case, ça veut dire qu'ils gardaient l'intention, en cas de pépin, de changer d'épouse. Et donc, le mariage était invalide.
Alors, les orthodoxes, vous pourrez les conseiller, si jamais ça ne se passe pas dans le ménage, de dire bah, tu n'es pas marié, de toute façon, tu peux changer de femme.
Bah, ils peuvent changer de femme
quand ils sont mariés. En tant que catholique.
On ne peut pas, parce que vous allez les pousser encore plus loin dans l'adultère, en fait. Parce que de se remarier, oui, de se remarier comment
mais ils sont pas adultes, c'est pas de l'adultère, parce qu'ils trompent personne. C'est concubinage, en
c'est
fait.
Concubinage.
Ouais.
Concubinage. Donc, le mariage, si le mariage orthodoxe, si, parce qu'il y a le problème, c'est qu'il y a plusieurs églises orthodoxes.
Mmh. Bon.
L'église orthodoxe russe, en tout cas, accepte 3 divorces. Les autres, je ne sais pas trop. Ça dépend, parce qu'il y a l'église orthodoxe grecque, il y a les bulgares, il y a les russes, il y a 3 ou 4 comme ça. Donc, en fonction des différentes entités géographiques, les lois peuvent être différentes. Et ça, c'est très important. Si je me marie en disant, je me marie, j'ai l'intention de rester toute ma vie avec ce monsieur, mais au cas où j'ai gardé une porte derrière ouverte pour pouvoir me remarier, le mariage est tout simplement invalide. Le problème, c'est que c'est extrêmement fréquent dans la mentalité actuelle. De plus en plus fréquent. Alors, moi, je voyais très bien, au Gabon, par exemple, quand j'étais là-bas, le Gabon, donc, ils signaient tous, au cas où, la deuxième case, qui acceptait 4 mariages. Vous pouvez avoir 4 épouses différentes. 4 épouses différentes. Et on refusait, nous, ces mariages-là, même si la personne vivait selon la loi du bon Dieu avec son épouse devant Dieu. À partir du moment où ils avaient signé un papier comme quoi ils acceptaient 4 mariages, l'intention était viciée, donc le mariage était invalide. Vous voyez ? Il fallait faire extrêmement attention. Donc c'était un bazar, ce niveau-là, dans les pays de mission, faire très très attention, on ne se met jamais d'histoire de mariage sans connaître à fond les coutumes locales. Au Gabon, j'ai prêché l'église de Saint-Ignace au Gabon, j'ai prêché 4 ou 5 exercices, je ne me rappelle plus combien de fois, mais j'ai prêché plusieurs fois les retraites. Bravo. Et quand j'étais au Gabon, le prêtre m'avait dit, le prêtre qui connaissait le prieur, qui avait Groche à l'époque, m'a dit, surtout c'est un cas de mariage, ne vous emmenez pas, parce qu'il y a des tas de coutumes locales qu'il faut absolument respecter pour pouvoir être sûr des mariages. Parce qu'ils ont là-bas ce qu'ils appellent le mariage coutumier. Le mariage coutumier, c'est le mariage devant le chef de la tribu, selon les coutumes locales. Bon. Alors, c'est des histoires... abracadabrante pour un Français, c'est incompréhensible pour nous. Parce que l'époux là-bas, le futur époux, doit acheter sa femme. Il doit acheter sa femme avec un contrat, un bonnet du forme, avec un arrangement entre le père, lui et le père de l'épouse, la future épouse, et un arrangement avec le chef de tribu. Bon. Et donc, un mariage coutumier doit être effectué devant le chef de tribu et devant les parents des deux parties. Avec le prêtre aussi qui en plus met son nez dedans, pour être sûr que le mariage coutumier a été fait. Parce que si le mariage coutumier n'a pas été fait, ils se considèrent comme non mariés, même s'ils sont passés à l'église après. Donc s'il y a un problème, paf, ils viennent récupérer l'épouse. Bon, et vous perdez votre épouse, parce qu'un beau matin, le beau-père arrive, débarque, et hop, récupère son épouse, parce qu'il avait acheté, le beau-fils, le gendre, avait acheté son épouse 25 cochons noirs, mais il y en a un qui est mort au bout de 3 jours, donc il avait le mauvais oeil. Donc c'est les gens de la famille qui ont jeté un sort sur le cochon. D'abord, il devait déjà être malade avant, donc le mariage est envoyé, donc je viens récupérer ma fille. Hop. C'était un bazar invraisemblable. Et j'ai dû être, par la force des choses, j'ai entendu ces trucs invraisemblables. Alors, en plus, ils m'ont expliqué des trucs, c'était à mourir de rire. Il fallait que je reste très sérieux. Parce qu'ils expliquaient, parce qu'il y a 14 tribus différentes en plus de Gabon, avec des langues différentes, des cultures complètement différentes. Et selon les cultures, les règles étaient différentes. Alors, ils m'expliquaient que. J'avais devant une dame qui a fait la retraite, elle m'a expliqué qu'elle a été achetée par son mari, c'était 40 bouteilles de vin et 25 cochons noirs. Bon. Et donc, il fallait être sûr, avant le mariage religieux, que le mariage religieux n'ait lieu, il fallait être sûr. Que le mariage coutumier ait été fait. Donc, le papa a reçu les 40 bouteilles de vin, il a reniflé les 40 bouteilles pour être sûr que le vin n'était pas frelaté. Après, on compte les cochons, on vérifie que les cuisses sont bonnes, okay, que le cochon n'est pas malade, et après, on accepte. Une fois que c'est fixé, le chef de tribu prend sa part, évidemment, dans cette histoire-là, le mariage est considéré comme valide pour eux. Après, on peut faire le mariage religieux. Alors, parfois, il y a des trucs qui ressemblent. Un truc qui est vraisemblable parce que quand il y a des problèmes après, Tout doit être réglé avec les chefs de tribu. Donc, il fallait faire très très attention à ces histoires-là. Et il n'est pas question au Gabon de supprimer le mariage coutumier. On n'a jamais pu le faire. Parce que c'est des mariages qui sont trop ancrés dans les mœurs. Alors, en plus de ça, selon les tribus, eux, ils se repéraient. Moi, je n'ai jamais compris comment ils faisaient. Pour moi, j'avais deux noirs de deux tribus différentes. Ils étaient kif-kif bougrigo, c'était des bambonnets, bonnets. Ils ressemblaient les mêmes traits physiques, etc. Et eux, ils voyaient, non, celui-là, c'est pas un de chez nous. Non, on voit bien, vous voyez pas que c'est un Mienné. Moi, je regardais avec tous mes yeux, je vois rien du tout. Mais non, c'est pas un Mienné, c'est un fan, lui. Alors, il y avait plusieurs tribus, il y avait les fans, il y avait les Miennés. Et vous voyez, pour les catéchistes, c'était bazar. Les enfants n'avaient pas la même langue, donc il fallait des vieux qui sachent parler la langue, plus le français, pour pouvoir être compréhensible et compris par les pères. Et chaque, il y avait des groupes de catéchistes dans chacune des langues. 14 groupes. Alors, c'était des coutumes changées selon les tribus. Ce qui provoquait des problèmes énormes pour les mariages. Parce que pour les conversions, effectivement, parce que quand quelqu'un se convertissait, passait de l'animisme, la religion tribale, à la foi catholique, à tous les coups, ils étaient mariés au moins 4 fois. Ils avaient au moins 4 épouses, tous. Donc, quand ils se mariaient, 4 épouses, ça fait un peu beaucoup quand même. Quand ils étaient baptisés catholiquement. Pour pouvoir les baptiser catholiquement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait régler l'histoire matrimoniale. Oh, monsieur débarque avec 4 épouses, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, pour le Didier, il peut en empoisonner 3, il en reste une, mais ça fait un peu désordre. Donc, en fait, le papillon a accordé, avec sagesse d'ailleurs, des lois spéciales pour eux, parce qu'il fallait rendre les choses possibles. Donc, ils savaient eux-mêmes, ils étaient incapables de dire quelle était la première épouse, puisqu'ils avaient épousé les 4 en même temps, en général. Donc, on n'arrivait pas à avoir les papiers qui prouvaient quelle était la première qui avait été épousée dans ce cas-là. Donc, l'Église catholique, ce pion, qui s'est beaucoup occupé des missions, avec sagesse, a dit, voilà, on vous donne le droit ou d'en choisir une des 4, pour votre épouse légitime, et vous renvoyez les 3 autres, ou vous en prenez une autre. Mais votre épouse chrétienne doit être unique, vous ne pouvez pas en prendre 2. Le problème, c'est que, quand les gens avaient été mariés 3 ou 4 fois comme ça, ou avaient épousé 3 ou 4 épouses différentes, ça veut dire qu'ils avaient acheté leur femme 3 ou 4 fois. Il n'était pas question, mais là ça provoquerait immédiatement des massacres, de renvoyer l'épouse sous prétexte qu'on n'en veut plus pour se voir être baptisé. Il est hors de question de renvoyer l'épouse sans renvoyer la dot avec. Monsieur, je vous rends votre épouse parce que je me fais catholique, je n'ai pas le droit d'en avoir 4, donc je vous rends votre fille. Et le papa dit, par ici, c'est bonne soupe, je veux aussi la dot. La dot de ma fille. Et donc, il fallait payer la dot. Et dans certaines tribus, les dots étaient considérables. Dans certaines tribus, la dot, c'était une voiture neuve. Une voiture neuve pour un Africain en Afrique, ça fait 10 ans de salaire. Bon, ou dans certains cas, la dot, c'était une maison. Donc c'était des choses considérables. Il y a des tas de gens qui ne pouvaient pas être baptisés à cause d'histoire matrimoniale. Ils n'avaient pas l'argent pour rendre toutes les dots. Et donc, ça traînait. Finalement, ils arrivaient à régler leur situation que sur le moment, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que l'Église fait très très attention à ses coutumes locales pour être sûr que les coutumes locales ne s'opposent pas à la foi catholique. Alors, lorsque les coutumes locales ne s'opposent pas à la foi catholique, on les accepte. L'Église les tolère. C'est pour ça que, par exemple, au Gabon, même pour les gens de la tradition, on tolère le mariage coutumier. Ça veut dire qu'on l'accepte, on le tolère. Ça veut dire, du moment que le mariage régulier, religieux, se fait normalement, même si c'est passé d'abord par le chef de tribu, bon, ben, on tolère ça. D'accord ? L'important, c'est que le mariage religieux soit fait. Alors, il y avait des barèmes, c'était des bazars. Il y avait des barèmes selon les tribus. La tribu. Parce qu'il y a des tribus qui étaient très chères, les tribus des femmes étaient moins chères. Et, il y avait aussi c'était très important, ils m'expliquaient ça, mais très sérieux, il fallait rester de marbre, pas qu'il y ait de rire devant eux. Par exemple, ils considéraient aussi que c'était très important, parce que là-bas, la femme, c'est très important pour eux, parce que la femme, c'est celle qui s'occupe de la plantation. La plantation, c'est un bout de forêt vierge où ils plantent leurs bananes, ils plantent la pomme de terre ou la patate douce. Et c'est toujours la femme qui s'en occupe, par tradition. La femme s'occupe des enfants et de la plantation. Bon. L'homme, il peut travailler éventuellement à l'extérieur quand il y a un boulot, mais c'est pas lui qui s'occupait de la plantation. C'était l'épouse. C'est très important que la femme soit une bonne travailleuse. Et donc, il m'avait expliqué qu'il y avait dans certaines tribus, donc, pour que la femme, si la femme était trop maigre, elle ne pouvait pas travailler. Elle serait trop, trop, trop faible au travail, donc les prix descendaient. Donc, si la femme était bien, bien corpulente, alors ça, c'est une bonne travailleuse, oui, oui, ça travaillera bien, plantation, c'est là, hop, les prix montaient immédiatement. Alors, il fallait voir le truc. C'était un bazar, mais bon. Bon, heureusement, en France, ça n'existe pas. Mais on a d'autres problèmes. Alors voilà les empêchements d'irriment, vous devez un peu connaître quand même. Les empêchements d'irriment. D'abord, il y a l'empêchement d'âge. Bon. Alors celui-là, en principe, il n'y a jamais de dispense. L'empêchement d'âge, c'est en principe 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes. Ça veut dire que si deux personnes se désirent se marier et qui n'ont pas l'âge canonique, 16 ans pour les hommes, 14 ans pour les femmes, le mariage est invalide. On oblige dans ce cas-là d'attendre l'âge légal. Évidemment, ça nous choque un peu de savoir que d'après les lois d'église, une femme peut se marier à partir de 14 ans. Bon. C'est pas dire que c'est conseillé. Bon, il faut pas oublier qu'avant, les jeunes femmes avaient une maturité bien plus supérieure à la nôtre aujourd'hui, bien plus tôt. C'est-à-dire que la Vierge Marie était mariée à 14 ans. Et d'après la tradition, elle avait 14 ans quand elle s'est mariée à Saint-Joseph. Et donc, à 14 ans, les femmes de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ étaient parfaitement mûres. Capable de fonder un foyer. Actuellement, plus du tout. Une jeune fille à 14 ans, c'est une gamine. Je crois que même légalement, c'est à mon avis interdit. C'est interdit, je pense, de se marier, même avec l'accord des parents.
Il y a des tournements mineurs.
Je crois que même avec l'accord des parents.
Non, c'est 18 ans.
Peut-être pas. Je crois que c'est descendu à 16 ans à certains lieux, il me semble. Je suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est absolument interdit. Donc l'Église, dans ce cas-là, n'accepte jamais de donner une dispense. D'accord. Et donc, on oblige les gens à attendre. Après, les dispenses d'impuissance. Alors là, attention, il y a un mélange, il y a beaucoup de confusion là-dedans. L'impuissance, ça n'a rien à voir avec la stérilité. Les gens qu'on mélange tout. Donc, la stérilité n'est pas un empêchement. Bon. Imaginez une femme qui, pour une raison physique, ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a eu une hystérectomie quand elle avait 15 ans pour un cancer, ou je ne sais pas trop quoi. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle peut parfaitement se marier. La seule obligation qu'elle a, c'est de prévenir son futur qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et voilà, je suis désolé, mais il faut que tu saches, tu voudrais m'épouser, mais je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant parce que j'ai eu une opération pénible que j'ai dû supporter quand j'avais 15 ans, parce que je me suis retrouvé avec un cancer ovarien, un cancer utérin, etc. Et donc, si la personne, le conjoint est au courant et accepte la notification, ils peuvent se marier légitimement. Donc la stérilité n'est pas un empêchement. Cependant, si une femme sait qu'elle est stérile, elle a le devoir moral de prévenir son futur. C'est logique. D'accord. Alors, l'impuissance, ça n'a rien à voir avec ça. L'impuissance, c'est l'impossibilité d'accomplir la relation conjugale pour des raisons physiques. Bon, on peut dire une malformation physique d'un côté ou de l'autre. Alors pourquoi ? Il faut bien comprendre. Quand une personne est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc la fin première du mariage n'est pas possible. La fin première du mariage étant la procréation et l'éducation des enfants. Mais la fin secondaire du mariage est possible. C'est-à-dire l'amour mutuel entre les époux, l'amour physique mutuel entre les deux époux. Quand par contre une personne est impuissante, la personne ne peut pas avoir d'enfant et en plus ne peut pas avoir de relation conjugale. Donc les deux fins sont impossibles, le mariage est invalide. Donc on ne donne jamais de dispense pour un cas d'impuissance, sauf pour les personnes âgées. Ça arrive assez fréquemment avant. Personne âgée, veuve en général, personne n'avait été mariée, puis elle s'est retrouvée veuve à 50 ans, 60 ans, et puis 65 ans, elle rencontre un ami, quelqu'un qu'elle connaît bien, qu'elle aime bien, et puis ils veulent se remarier tous les deux sont veufs, ils ont la soixantaine, 70 ans parfois, ils veulent se marier. Ils peuvent se marier, puis ils sont tous les deux veufs, ils ont... Bien sûr, ils ne sont plus en âge d'avoir des enfants. Donc la fin première du mariage est impossible, mais la fin seconde reste possible. Bon. Dans ces cas-là, même quand c'est pas arrivé pour des hommes âgés, des hommes impuissants, qui ne peuvent plus, pour une raison physique, avoir la relation physique avec leur épouse, l'Église peut donner une dispense, etc. Pour les personnes âgées. Par contre, on ne la donne jamais pratiquement jamais pour les jeunes. Bon. Troisièmement, le lien. Le lien, c'est l'existence d'un mariage valide antérieur. Là, il n'y a jamais de possibilité d'avoir une dispense. Évidemment, l'église de Vatican II s'en fiche, ils font du n'importe quoi puisqu'ils acceptent maintenant le divorce. Enfin, il faut bien comprendre, c'est du divorce, en fait, accepté, mis sous d'autres noms, mais en fait, c'est un divorce. Donc, le lien interdit tout mariage, tant que la personne, l'épouse légitime n'est pas mort de mort naturelle, attention. Ça, c'est très important, c'était capital dans l'émission. Moi, j'ai un cas invraisemblable comme ça qui m'est arrivé au Mexique, où deux jeunes se présentent pour se marier, et puis je découvre qu'elle est déjà mariée, religieusement, s'il vous plaît. Je lui dis, mais je ne peux pas vous marier, vous êtes déjà marié. Elle me dit, ah bon, mais il faut que je fasse quoi alors? Ben, je lui dis, vous attendez qu'elle meure. Bon. Tant qu'elle est vivante, vous ne pouvez pas vous marier. Et puis, elle dit, ah bon? Puis il est parti. Il dit, bon, ça va, il a compris. Et pensez-vous, le lendemain matin, elle débarque, ça y est, c'est réglé. Donc, c'est réglé, ben, elle est morte. Attendez, elle est morte. Mais elle était vivante hier. Ah, ben oui, mais hier, elle était vivante, aujourd'hui, elle est morte. Alors, je dis, mort naturelle ou non? Elle me dit, oui, plus ou moins. Et puis, en fait, elle a été tuée par 14 coups de couteau, la fille. Comment naturel, mais oui, c'est comme ça au Mexique. Pas chez les Blancs, mais chez les Indiens, c'est comme ça. Alors, il fallait bien préciser. En fait, j'ai fait l'erreur, parce que je connaissais mal le pays. Quand on dit aux gens, attention, vous êtes liés tant qu'elle est vivante, et s'il lui arrive un accident de parcours un peu bizarroïde, qu'elle tombe sur une lame de couteau comme par hasard 14 fois de suite, eh bien, je vous assure tout de suite que le remariage est impossible parce qu'il y aura un empêchement, c'est ce qu'on appelle un empêchement de crime. On va parler après. Donc l'empêchement de lien ne peut pas être ôté. On n'enlève jamais l'empêchement de lien. Bon. Sauf dans l'église de Vatican II, ils font n'importe quoi. Après, disparité de culte, j'ai déjà expliqué. Disparité de culte, donc c'est le cas d'un mariage entre un catholique, une personne qui a un mariage non catholique, qui n'est pas baptisé. Par exemple, un musulman, un juif, ou une religion orientale, comme le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça. Bon. Avant, l'Église tolérait dans certains cas de donner la disparité de culte pour, par exemple, certaines religions orientales, mais jamais pour l'islam et jamais pour le judaïsme. Donc, vous voulez vous marier avec un musulman, avant c'était une niette catégorique, pas question. Même si la personne disait, moi, si c'est comme ça, je viens pour Covinage, monsieur, je vais vous donnez-vous, mais comptez pas sur moi pour vous y aller. C'était comme ça, ce qu'on appelle la disparité de culte, quand elle se faisait même condition, mariage à la sacristie, promesse que la partie non catholique ne cherchera jamais à convertir au paganisme la partie non catholique, et promesse aussi que tous les enfants à naître seront éduqués dans la foi catholique. D'accord ? Donc c'est pareil que la religion mixte, la seule différence c'est que religion mixte est prohibant, avec deux baptêmes dont un n'est pas catholique, deux baptisés dont un n'est pas catholique, et là c'est disparité de culte, ça c'est déribant, donc le mariage est absolument invalide, s'il n'y a pas les conditions remplies. Après, l'ordre sacré, ça veut dire que des personnes qui sont liées par un vœu de chasteté solennelle. Donc c'est le diacre et le prêtre. Avant, on n'est pas prêtre d'un seul coup, avant de devenir prêtre, on franchit plusieurs étapes. Donc depuis la première année de séminaire, on reçoit ce qu'on appelle la tonsure, puis après il y a les quatre mineurs, portier, lecteur, acolyte, exorciste, puis le sous-diaconat, puis le diaconat, puis la prêtrise. Donc, tant que les personnes n'ont reçu que la tonsure des ordres mineurs, ils peuvent se marier. Donc si un séminariste quitte le séminaire après avoir reçu les quatre ordres mineurs, il peut se marier sans dispense. Ça, c'est le cas de M. Seguillo, parce que M. Seguillo fait comme 4 ans de séminaire, je crois. Je crois que c'est 4 ans de séminaire, il a dû recevoir les 4 mineurs, au moins 2, peut-être même les 4. Et bien, ce mariage avec Sonia Seguillo est parfaitement valide. Alors, Thérèse est fille légitime, donc pourra pas de problème. Bon, parce que les ordres mineurs n'entraînent pas, justement, cet empêchement. Par contre, à partir du moment où les gens deviennent sous-diacres, ou diacres ou prêtres, c'est fini, terminé. On ne peut plus se marier du tout. Avant, au temps de Pie XII, jusqu'à Pie XII, la dispense n'était jamais accordée pour un prêtre, très très difficilement pour un diacre et plus facilement pour un sous-diacre. Bon, c'est qu'un sous-diacre, une fois qu'il est sous-diacre, c'est fini, il est sous-diacre jusqu'à la fin de sa jour. Hein. C'est pour ça que avant l'ordination sous-diaconat, l'Église fait tout un long discours au diacre, au futur sous-diacre, en disant attention, vous êtes libre. Si vous voulez garder votre liberté, vous partez maintenant, mais si vous tenez à devenir sous-diacre, sachez que vous êtes engagé à vie, que vous ne pourrez plus jamais vous marier. Et à ce moment-là, c'est très beau comme cérémonie. Donc tous les futurs sous-diacres font un pas en avant en disant « l'inventaire, c'est ce que je veux ». Et là, c'est le vœu de chasteté. D'accord ? Alors l'Église ne concédait jamais de dispense pour les sous-diaconats, très difficilement pour le diaconat et jamais pour le sacerdoce, encore moins, plus jamais pour les épiscopats, évidemment. D'accord ? Aujourd'hui, encore une fois, dans l'Église du Vatican II, ils font n'importe quoi. Après, profession religieuse solennelle. Ça, c'est pour les moines. Profession religieuse solennelle, si une femme a fait profession religieuse solennelle dans un ordre grand ordre, par exemple chez les bénédictines ou les franciscaines ou les carmélites, ça s'appelle un grand ordre, donc elle a un vœu, une profession religieuse solennelle, une fois qu'elle a fait sa profession religieuse solennelle, elle ne peut plus se marier. Il faudrait une dispense qui n'était pratiquement jamais accordée avant. Après, le rapt. Bon, alors ça, c'est des cas qui font un peu sourire en France, mais qui étaient très fréquents dans les pays de mission. Le rapt, c'est l'absence de liberté dans les deux cas. Bon, c'était extrêmement fréquent. J'ai rencontré beaucoup de cas comme ça quand j'étais au Mexique. J'en prends beaucoup avec les cas qu'on a encore là, les pays pauvres, les pays de mission. Le rapt, ça veut dire que la personne n'a pas la liberté de choix. Bon, ben, c'est par exemple, monsieur veut épouser mademoiselle, commence à lui faire la cour et lui demande est-ce que tu veux m'épouser. Mademoiselle dit non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, t'es trop gros, t'es trop maigre ou je ne sais pas quoi, tu ne m'intéresses pas. Alors, dans bien des cas, ça se passait vite, c'est bien fait. On a envoyé les frères et sœurs du marié qui allaient piquer la fille chez elle. On l'enfermait dans une cage quelque part en pleine forêt. Et on lui disait, c'est tout simple, on vient te voir tous les matins et tu sortiras de la cage quand tu auras dit oui. Et tant que tu n'as pas dit oui, ben, tu restes dans la cage. Alors, c'était en pleine forêt, les filles, elles pouvaient hurler, faire tout ce qu'elles voulaient, t'entendais rien, personne n'entendait. Et puis, elles restaient là-dedans jusqu'à ce que, finalement, en mourant de faim, elles finissaient par dire oui. Et à ce moment-là, il y avait tout de suite le mariage coutumier qui se faisait. Alors, quand l'Église suspectait un cas comme ça, c'était systématique, il n'y a jamais de dispense. C'est pour ça qu'il est très très important, je l'ai vu, je l'ai fait avec vous ce matin, quand on a fait une enquête, qu'on voit la personne seule. Personne ne peut être là pour l'enquête. Pour que la personne en question ait liberté totale de révéler un empêchement. D'accord ? C'est pas évident dans certains milieux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'empêchement de rapt, l'absence de liberté physique pour de donner consentement. Après, le crime. Alors ça, c'est aussi très fréquent. Une dispense n'était pratiquement jamais accordée pour dispense de crime. Dispense de crime, c'est un adultère avec meurtre de l'époux. Bon, personne dit, voilà, je vais épouser cette jeune fille, ma femme commence à me taper sur le système, donc j'ai décidé de changer d'épouse, j'en prends une autre. Et puis, pour arranger les choses, je tue d'abord mon épouse légitime, et une fois qu'elle est morte, hop, je peux épouser plus facilement l'autre. Eh bien, si vous tuez votre épouse légitime pour pouvoir en épouser une autre, le deuxième mariage est invalide. Et pour ça, il n'y a jamais de dispense accordée. Okay. Donc, il faut penser à deux fois en se marier. Quand vous êtes marié, c'est fini, hein, terminé. Alors, l'empêchement de crime, c'est comme ça. Même un simple empêchement de... Promesse de mariage d'une personne qui est déjà mariée à quelqu'un d'autre oblige cette dispense. D'accord ? Après, la consanguinité, l'affinité, là, je passe vite. Ça, c'est des choses canoniques un peu compliquées. La consanguinité, c'est-à-dire que deux personnes qui sont issues de la même souche de sanguine ne peuvent pas se marier. Non. Alors, la ligne directe à tous les degrés, ça, c'est père, fils, petit-fils, etc. Ça s'appelle la ligne directe. Verticale, en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré. Donc ça, c'est le rapport d'une personne avec ses enfants, avec ses neveux et nièces. D'accord ? Donc, dans l'Église catholique, il existe une consanguinité qui interdit le mariage sous peine d'empêchement d'irriment entre tous les consanguins en ligne directe à tous les degrés, à ligne collatérale jusqu'au quatrième degré. Quand on a des cas comme ça, alors il faut s'asseoir, faire un petit arbre, et essayer de contenter où on se passe dans les degrés. Bon, pour être certain que les choses se font correctement. Donc les empêchements de consanguinité, surtout au dernier degré, quatrième degré, étaient accordés relativement facilement auparavant. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que les évêques peuvent accorder ça. Alors, l'affinité, c'est après la mort naturelle de votre époux ou de votre épouse. De personnes sont mariées religieusement. L'époux ou l'épouse meurt. L'époux ou l'épouse meurt. Il y a un empêchement de mariage entre les membres de la famille de l'épouse qui vient de mourir et la personne qui va se marier, justement pour protéger, empêcher l'impureté dans la famille. Donc, avec les consanguins, les conjoints décédés, à tous les degrés en ligne directe, en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré seulement. Donc ça, c'est des détails canoniques, hein, je ne vais pas vous donner toutes les explications. Dans des cas comme ça, on fait un arbre. Déjà, les généalogies, c'est de savoir où on en est. D'accord ? Alors, l'honnêteté publique, c'est pareil, mais après un concubinage. Personne ne vit en concubinage, puis se sépare pour régulariser la situation, et quelqu'un d'autre. Bon. Quand deux personnes vivent en concubinage, veulent régulariser la situation devant Dieu, qui veulent se marier tous les deux devant Dieu, il n'y a pas de problème. D'accord ? Quand deux personnes vivent en concubinage, il y a une rupture de la vie commune et les deux personnes veulent se marier avec, par exemple, la sœur de son ancienne concubine. C'est là où intervient cet empêchement qu'on appelle un empêchement d'honnêteté publique en ligne directe jusqu'au deuxième degré. Bon, ça c'est compliqué quand on a des cas comme ça. Enfin, l'empêchement de parenté spirituelle, qui est très important, il faut bien connaître, c'est l'empêchement qui existe entre une marraine et son fils et son filleul. Ou un parrain, son fils. C'est pareil et pour le baptême et pour la confirmation. Et pour la confirmation. Il faut être très attention à payer une mission quand deux personnes sont baptisées avant de se marier, faire vérifier, bien vérifier, que la fiancée ne doit pas devenir marraine du baptême de son fiancé. Parce que si elle le fait, elle ne peut plus se marier. C'est un empêchement d'irriment appelé de parenté spirituelle. D'accord ? Vous suivez ? Je veux dire que c'est valable pour la confirmation et pour le baptême. Lorsque quelqu'un devient véritablement. Lorsque quelqu'un devient véritablement parent, ou païen, pas parent, comment on appelle ça un parrain ou marraine, pardon, voilà le terme que je cherchais, parrain ou marraine, il ne peut plus se marier avec cette personne, c'est impossible. D'accord ? Alors, pour l'honnêteté publique, c'est en ligne directe jusqu'au deuxième degré. D'accord ? Enfin, la parenté spirituelle, et j'en ai déjà parlé. Vous voyez donc, il y a 12 empêchements d'irriment. C'est ça, 12 empêchements d'irriment et 3 empêchements prohibants. Donc, c'est parfois un peu compliqué, faire attention. Voilà, on va arrêter là, parce qu'on a déjà pris dans 2 minutes, puis je vais mettre ça sur Internet, enfin, sur le sortir de l'outil magnéto pour l'utiliser. Alors, ce soir, donc, on a le chapelet à 6h. Après le chapelet, nous on a les vêpres, vous n'êtes pas obligé d'y assister, mais on a les vêpres. Et ensuite, il y aura le repas vers 7h30, 8h. On sonnera la cloche lorsque c'est prêt. D'accord ? Donc moi, je verrai à ce moment-là, après le chapelet, c'est-à-dire vers 7h15, donc je peux vous voir, vous, votre fiancé. Là, je vois ce moment, puis je vous reverrai ce soir après le repas de ce soir. Donc demain, même programme. Donc messe à 8h. Et après, à 10h. 2h30 et 5h, une conférence pour avancer dans la préparation. Donc vous pouvez garder ce papier que je viens de vous donner sur les empêchements si ça vous intéresse. D'accord ? Alors on va terminer par une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pidis,
priez pour
Saint Joseph,
priez pour nous.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.